Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre invitation de ce jour. Merci pour votre présence. Et merci aussi, merci à notre Dieu d'être avec nous en ce lieu cet après-midi. Nous avons commencé à méditer ensemble cette parabole sur le fils prodigue. Alors, fable ou réalité, vous avez bien compris que les histoires que le Seigneur a portées à notre connaissance, ce ne sont pas les petites histoires que l'on raconte aux enfants avant d'aller se coucher, mais qu'elles ont bien une signification plus importante pour nous chrétiens et non chrétiens aussi, de voir les attitudes du Seigneur envers son peuple, envers ses enfants. Et les versets que nous avons lus tout à l'heure, merci à Kate d'avoir lu ces versets pour nous, ne semble-t-il pas qu'il y ait une similitude avec cette parabole sur le fils prodigue. Nous avons vu la démarche du fils, de ce fils qui avait un frère, hein, bien sûr, entre autres dans l'histoire que nous avons lue, et qui va voir son père et qui lui demande ses biens, il rassemble ses biens et il décide de partir, de s'éloigner, de quitter le cocon familial, de quitter la protection de la famille, la protection du père, les richesses du père, la sécurité, la sérénité d'être auprès de son père. Mais il décide de partir jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que l'argent ne fait pas tout et qu'à un moment donné, il n'en a plus. Et quand il n'en a plus, c'est la misère. C'est la misère et là, il se rend compte. Il a cette honnêteté qui ressurgit de se dire « Mais qu'ai-je fait ? J'ai péché. » J'ai péché envers le Seigneur et envers mon Père. » Et là, il décide de retourner vers son Père, de lui demander pardon, et son Père l'accueille. Alors, nous avons vu l'approche du Fils, avec tout ce que ça comporte comme enseignement déjà. Et puis là, nous allons voir l'attitude du Père. Alors, si vous vous souvenez des premiers versets de la parabole, dans Luc chapitre 15, au verset 12, « Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le Père partagea son bien. C'est la seule réaction que nous voyons de la part du Père. Jusqu'à ce que, on ne sait pas combien de temps plus tard, on va dire un certain temps, quelques semaines, quelques mois, mais peut-être quelques années. Et puis un jour, comme il était encore loin, ce fils, en chemin vers la maison, son père le vit. Et là, nous avons la transcription de l'attitude du père. Il fut ému de compassion. Là, on le retrouve au chapitre 15, au verset 20. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Ça me surprend quand même cette attitude. Enfin non, ça me surprend, mais je peux le comprendre en tant que père. Mais ça peut surprendre quand même. On se dit, mais la première chose qu'il va faire, c'est quand il va le voir le fils, il va le laisser arriver et il va se laisser désirer. Il va laisser son fils le chercher, son fils se jeter à ses pieds, l'implorer, peut-être ne baissera-t-il pas les yeux sur lui ? Mais là, pas du tout. Il court vers son fils et se jette à son cou et l'embrasse. À croire qu'il en oublie les blessures et les souffrances et se réjouit déjà que son fils soit de retour à la maison. On peut vraiment ressentir au travers de cette expression, il fut ému de compassion, quel amour il porte à son fils. Et là, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. La joie est de retour. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voyez quand même au travers de cette histoire, dans ce contexte-là, il est considéré que le fils est mort parce qu'il a quitté son père. Il a renié son père. Il a demandé son dû et est parti. Donc moi, ce qu'il me revient et je pars. C'est-à-dire, je n'ai plus rien à voir avec toi. Je te rends mon alliance. Je divorce d'avec mon père. Et le père dit, mon fils était perdu parce qu'il avait choisi un autre chemin, le chemin de la perdition. Et il est retrouvé. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes? Le berger ne dit pas « il abandonne pour ne pas revenir ». Non, il laisse. Il laisse en sécurité ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il la retrouve, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. N'est-ce pas une similitude avec cette histoire du fils prodigue ? Il met un anneau au doigt de son fils et des sandales à ses pieds. Nous avons vu la dernière fois dans quel état avait pu se retrouver le fils. Il a sûrement dû partir avec de beaux souliers et puis de beaux habits, mais au fil du temps, peut-être a-t-il été obligé de vendre ses souliers, et ses habits ont dû sûrement se dégrader en veillant sur les cochons. Il n'a pas dû dormir dans un lit bien douillé dans la maison qu'il avait chez son père. Donc il a dû revenir dans un état déployable, effroyable, sale, malodorant. Et vous savez, il est revenu nu-pied, et vous savez qu'à cette époque-là, ceux qui marchaient nus, c'était des esclaves. Les esclaves n'avaient pas le droit de porter des sandales. Seuls les hommes affranchis avaient le droit de le faire. Les chaussures étaient un symbole, les sandales étaient un symbole de liberté. Et l'anneau, c'était un signe d'autorité et de filiation. Un père donnait un anneau à son fils. À croire que le fils est revenu sans son anneau. Peut-être même l'a-t-il jeté avant de partir à son père. Moi, j'aimerais souligner un petit peu tout ce contexte de l'image du père par ces quelques versets. Dans 1 Timothée, au chapitre 5 et au verset 1er, il est écrit ceci : « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. » Et puis dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 21, là on trouve une recommandation envers les pères. « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Là, je me permets une petite aparté. Aujourd'hui, à nouveau, comme il y a quelques années, parce que je me souviens déjà avoir vécu ce débat il y a un certain nombre d'années, il est question d'établir une loi condamnant les châtiments corporels, entre guillemets la fessée, envers les enfants. Alors tous les psychologues, il y a quelques années, avaient crié au scandale, il est interdit de fesser, il est interdit d'interdire, quoi, en fait. Hein, voilà. Et puis, quelques années plus tard, ouais, mais tout compte fait, la fessée, ça a du bon. On s'aperçoit qu'un enfant ne peut pas être laissé en totale liberté. La parole nous dit bien, élevez-les en les corrigeant, c'est pas dit élever en les battant, en les corrigeant et en les instruisant. Et en les instruisant. Alors je vais pas ouvrir, enfin j'ai ouvert un petit. J'ai ouvert une porte, mais je vais vite la refermer. Ce que j'en dis et ce que j'en sais par expérience paternelle, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans règles et sans limites. Et certaines limites, ma foi, passent par un petit encouragement. L'attitude de ce père que nous voyons là dans cette parabole fait penser à cette parabole sur le berger et ses brebis. Mais tout cela, l'enseignement, c'est de nous montrer l'attitude de notre Dieu envers sa créature. N'est-ce pas rassurant de savoir que notre bon Père céleste nous attend sur le pas de la porte du royaume céleste ? Quelle grâce de savoir qu'il nous attend pour faire la fête, pour célébrer des retrouvailles. Quand quelqu'un se convertit, ne dit-on pas qu'il y a de la joie dans le ciel ? D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu, il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un se donne au Seigneur. Il y a de la joie quand quelqu'un vient, remet ses souliers et reprend l'anneau de filiation auprès du Père Céleste. On retrouve dans Luc chapitre 15, verset 10, Jésus dit: il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et puis le Seigneur nous laisse ces différentes exhortations. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Il n'est pas interdit de faire la fête. Il n'est pas interdit de se réjouir. Mais où est l'édification ? Nous ne pouvons pas passer notre vie à nous réjouir. Dans la débauche, s'entendons bien. Parce que peut-on considérer que le chrétien est quelqu'un de triste, qui ne se réjouit jamais ? Bien au contraire. Bien au contraire. De Corinthiens au chapitre 7 au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne revient jamais là-dessus. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. De Timothée au chapitre 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te repent. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge, du bâton, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors nous pensons être plus intelligents que Dieu. Nous pensons que ne rien faire va résoudre tous les problèmes. Mais là, le Seigneur nous montre que réprimander, reprendre, corriger, fait partie de l'amour. Jean au chapitre 2, versets 28 et 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez dans lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Nous ne soyons pas comme ce fils prodigue, égaré dans la nature, à dépenser, à brûler notre vie, à brûler notre avenir éternel. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et puis, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Et puis, souvenez-vous de cette parole de Jésus. Il s'adresse à la foule et dit: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Voyez l'attitude du Père envers le retour de son fils. Le fils n'a même pas eu le... A-t-il eu le temps de demander du pain à son Père? Son Père savait déjà de quoi il avait besoin. Toutes les brebis qui sont perdues n'ont pas besoin de demander à Dieu ce dont ils ont besoin, parce que le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Et puis voyez l'attitude de Dieu envers ses enfants. Le Seigneur cherche, veille à ce qu'aucune de ses brebis, ou à ce qu'aucun de ses fils, à ce qu'aucune de ses filles ne s'égare. Il est temps de célébrer les retrouvailles du Fils avec son Fils, du Créateur avec sa créature. Il est temps de venir Et il est temps aussi de revenir à la maison du Père. Le Père a demandé à ses serviteurs « Amenez le veau gras et tuez-le. » Cela ne nous fait-il pas penser à Jésus, l'agneau de Dieu, mort pour nous? Jésus a déjà été sacrifié. Jésus a déjà payé le prix de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs, de nos égarements. Nous n'avons pas à demander rançon de notre vie. Jésus a déjà payé le prix. La seule chose que nous avons à faire, c'est nous présenter devant le Seigneur, tels que nous sommes. La brebis égarée, le fils égaré arrive devant son père en mauvais état, couvert de souillures visibles extérieures, mais de souillures aussi de son cœur. Et toutes ces souillures peuvent être nettoyées, lavées par le sang de Jésus. Quels que soient les péchés que nous avons commis, si notre repentance est sincère, le Seigneur ne nous rejettera pas. Le Seigneur, comme ce Père, va donner une nouvelle vie à son Fils. Des nouveaux habits, des nouvelles chaussures, un nouvel anneau. Voilà mon Fils, tout est oublié. Mais on repart comme avant. J'aimerais rebondir sur l'attitude de l'autre fils. Vous savez, il y a un petit passage, donc dans Luc au chapitre 15 et au verset 25, le fils aîné, lui, il était dans les champs quand son frère est rentré à la maison. Alors lorsqu'il revint, il s'approche de la maison, il entend de la musique, il entend des danses, il entend de la joie, et il appelle un de ses serviteurs et lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur lui dit « Mais ton frère est de retour !» Donc c'est pour ça qu'on fait la fête. Et lui se met en colère, il ne veut pas rentrer. Vous trouvez ça logique comme attitude? Oui, peut-être qu'on peut trouver ça logique comme attitude. Il dit « Attends, moi il y a un truc que je ne comprends pas quand même. Dans sa tête, ça doit faire les 24 heures du Mans, là. » Il se dit « lui, il a pris la moitié de l'argent du père. Il est parti, il a tout gaspillé, il revient, comme si de rien n'était, on lui fait la fête. » Ils ont tué le veau gras. Moi, j'en ai même pas eu un veau gras pour faire la fête avec mes amis. Et qu'est-ce qu'il lui répond, de père? Mais toi, est-ce qu'il te manque quelque chose? Puisque toi, t'es là à côté de moi, avec moi, et tu as tout. Quelle drôle d'attitude. Hein? Ne serait-ce pas un peu de jalousie? Je pense qu'assurément ce fils était jaloux. Il a laissé exprimer sa jalousie. Jalousie de son frère qui est reçu à bras ouverts par le père. Lui, il le voyait déjà banni et c'était même plus la peine qu'il se présente. N'avait plus aucune valeur. D'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais celui qui est près du Père nécessite moins d'attention que celui qui est perdu. Le berger ne laisse-t-il pas 99 brebis sur lesquelles il sait qu'elles vont rester en place. Elles ne vont pas faire les folles quand le berger sera parti. Non, il sait qu'il peut les laisser pour aller chercher la brebis perdue. Alors il va ramener la brebis, puis les 99 vont lui dire « Eh, mon berger, là, t'es bien gentil, mais elle s'est perdue, tu nous as abandonnés. » Non, le berger ne les a pas abandonnés. S'il les a laissés, c'est que s'il leur faisait confiance. Si le Seigneur estime qu'il doit vous laisser un peu et aller chercher d'autres brebis, est-ce que moi je vais me révolter contre le Seigneur? Moi, tu t'occupes pas de moi? Mais si, mais il s'occupe constamment de moi. Constamment. Donc peut-être nous pouvons voir aussi un certain sentiment de jalousie lorsque nous voyons que le Seigneur intervient davantage dans la vie de l'autre que dans la mienne. Seigneur, moi aussi, je suis ton enfant. T'as pas un petit peu quelque chose pour moi? Vous savez, ça, c'est vrai qu'on peut sourire. Ça fait sourire ce genre de choses. Mais c'est tellement vrai. Combien de fois j'en ai connu des assemblées. Je peux vous dire que, il y a certaines histoires cocasses dans l'attitude des chrétiens. Alors, attention. Parce que cet état de privilège, le fils qui est resté auprès du père, c'est un état de privilège. Il n'était pas perdu, lui. Il était sauvé. Il était auprès du père. Il avait tout. Il avait la robe, il avait les souliers, il avait l'anneau. Il avait ses richesses, elles étaient là autour de lui, avec lui. Voilà, tout était là. Mais elle est entachée par une attitude indigne. Alors je vous en supplie, n'ayons pas cette attitude de cet autre fils. Alors peut-être que là on se rend compte que sans avoir jeté notre indifférence à la tête de notre Seigneur, peut-être qu'on s'est éloigné un petit peu de lui. Peut-être qu'on a commencé à faire un petit bout de chemin tout seul. Se dire peut-être que le Seigneur est toujours avec moi, donc je peux peut-être aller marcher un petit peu plus loin. Attention. Attention, parce qu'à côté de ce genre de chemin, il y a l'abîme, il y a les ronces, et puis il y a toutes les tentations qui sont là, toutes les épines, les brigands autour. Alors, restons comme ces 99 brebis, restons confiantes, sachant que le Seigneur nous fait confiance, sachant que si le Seigneur nous nous a laissé quelque peu, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'il nous aime, c'est sûr, mais c'est parce qu'il nous fait confiance. Nous pouvons toujours revenir auprès du Père, et n'oublions jamais que le Père nous aime, notre Seigneur nous aime, tel que nous sommes, même si nous avons fait des écarts. Alors, un bon petit encouragement, et c'est reparti. Et vous savez, on rigole, on dit il n'y a que les enfants à qui on peut donner une petite fessée. Je crois qu'en tant qu'adulte, le Seigneur, il en donne aussi des fessées à ces brebis dites adultes. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions vraiment comprendre et réaliser ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces paraboles. Amen.